vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles. Je vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles écrite par votre serviteur, lue par des comédiens du cru et ponctuée de musique. Je vous la fais courte, une émission où les nouvelles sont bonnes, d'où qu'elles viennent.
Certains s'approchèrent, d'autres semblaient perplexes. Aucun ne semblait vouloir parler. Un homme, portant une blouse blanche, changea l'orientation d'une des lampes. Prenant appui sur la table, il se pencha. Sa tête était à l'exact perpendiculaire du corps. Malgré de nombreux points communs, nous parvenions à être différents les uns des autres. Certains l'étaient plus que d'autres. Quand je dis « avant », c'est par pure commodité, je ne saurais dire à quand remonte cet avant. J'ai de la mémoire. Seulement, l'évolution a été imperceptible. J'ai été emporté par le mouvement de cette évolution. Il n'existe pas de date précise. On pourrait dire que cela a commencé avec Marco Polo, s'est prolongé avec Christophe Colomb et a trouvé son couronnement avec l'OMC. Le monde est devenu un immense marché. Tout. Éternels insatisfaits, éternels frustrés, nous voulions tout. Tout de suite. Nous finîmes par être exaucés. Avec de nombreuses innovations techniques, on nous permit d'avoir accès à tout moment, où que nous nous trouvions. Je ne saurais dire qui était ce « on ». À vrai dire, nous ne cherchions pas à savoir. À quoi bon d'ailleurs ? Nous n'avions aucune prise. Le monde était comme un smoothie, doux, mousseux, multicolore, sucré. Il nous arrivait d'être écœurés. Cela ne durait jamais bien longtemps. Après quelques mouvements d'humeur, quelques défilés où, munis de nos banderoles, nous déclamions des slogans raisonnablement contestataires, nous rentrions dans le rang. Pendant ce temps-là, là-bas, d'autres, se débattant dans la misère, la violence et la répression, se raccrochaient à l'espoir de pouvoir un jour pousser les portes de notre abondance. Nous sentions confusément que notre vie nous échappait. Nous ne semblions pas avoir de destin. Nous devenions une société de recroquevillés. Recroquevillés à portée d'écran, à portée d'un clic, à portée d'une commande. Le tout se désagrégeait lentement. Il n'existait plus de corps social, que des individus inquiets de perdre leurs privilèges. À quoi bon la vérité s'il était désespérante? La science triomphait. Elle était étroitement liée aux différents pouvoirs. Officiellement, son objectif était de nous faciliter la vie. La vie devait nous être agréable, se prolonger et n'être qu'une succession de désirs satisfaits. Parmi les découvertes, les avancées, diront certains, figuraient la disparition du cœur. Malgré des campagnes d'information et des programmes santé de prévention, le nombre d'accidents cardiaques et autres pathologies dues un mode de vie trop sédentaire, avait augmenté de façon inquiétante. À terme, cette tendance pouvait provoquer des déséquilibres tant démographiques qu'économiques. C'est ainsi que fut mis au point un appareillage qui fut implanté en lieu et place du cœur. Le remplacement était programmé quand la croissance était arrivée à son terme. On constata très peu de rejets et l'espérance de vie augmenta considérablement. Un effet secondaire intrigua et encouragea les autorités à persévérer dans cette voie. Sans que l'on puisse encore l'expliquer, on remarqua que les personnes ayant bénéficié de l'ablation du cœur avaient tendance à développer une propension au repli sur soi, au désintérêt de ce qui ne les concernait pas directement. Le temps passant, les valeurs de solidarité et de fraternité perdaient de leur sens. Faute de bénévoles, les associations d'aide aux personnes en difficulté finirent par disparaître. L'assistance gratuite, le dévouement apparaissaient maintenant comme incongru. Sans que cela ne fût officiellement formulé, venir en aide à ses semblables devint un quasi-délit. Malgré tout, et sans trop savoir ce qui me poussa à prendre cette décision, je créai, aux grandes âmes de ma famille, une association clandestine d'aide aux sans-abri, à qui, dans la mesure de mes moyens, je fournissais notamment nourriture, vêtements et accès à notre deuxième salle de bain. comme il était prévisible, cette activité intrigua les voisins qui finirent par en référer aux autorités. Sous prétexte d'effectuer un contrôle de routine de mon appareillage cardiaque, je fus conduite à l'hôpital. C'est ainsi que je me retrouvais allongée sur une table d'examen, entourée de médecins et autres personnes dont j'ignorais la fonction. L'homme penché au-dessus de mon torse se fit apporter un stéthoscope, ustensile d'un temps révolu. En posant l'extrémité sur mon torse, il sembla écouter attentivement. Son visage ne laissait rien paraître. L'examen terminé, il se recula et posa le stéthoscope sur une table roulante. L'assistance attendait son diagnostic. Tout s'explique. Elle a un cœur.
Marie-Lou repose sous la neige. Et je me dis, je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige put préserver la fraîcheur de l'inédit. De ma loup en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondis. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeaient les droits du copyright opéra mondi. Oh Malou, il fallait que j'abrège existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie.
Je vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles.
Couleur d'égout. J'ai froid. Je suis certaine qu'il m'a encore oubliée. À chaque fois, c'est la même chose. L'eau est devenue tiède. Au début, elle est souvent trop chaude, mais j'aime bien. J'aime sentir la brûlure sur ma peau. La vapeur s'élève. Une brume qui se dépose sur les vitres. Je sens les gouttes de sueur couler sur mon... La transparence offre un corps à mes yeux. Il semble échouer au fond. Les ondulations de la surface en donnent une image déformée. On dirait une étude de Bacon. Mais ce que je vois est loin de ressembler à de l'art. Je me demande comment j'ai pu en arriver là. Difficile de croire que ce corps m'appartient. Il reste si peu de choses de ce qu'il fut. Souplesse des articulations, douceur de la peau, rondeur des seins, fermeté des fesses, vigueur des muscles. Je provoquais, je faisais naître ton désir. Nous faisions l'amour, partout, n'importe quand. Vite fait, lentement, nous commencions là, nous finissions ailleurs, un sourire, et nous recommencions. Aujourd'hui, le simple fait de m'en souvenir pourrait me faire plaisir. Le désir n'est plus aussi profond que mes rides, rides qui est l'anagramme de désir. Pour tout dire, il a disparu. J'aimerais bien, J'essaie parfois de le raviver, je ferme les yeux et je me passe des courts-métrages. Toi et moi dans l'ascenseur, toi et moi au cinéma, toi et moi dans une cabine d'essayage, toi et moi dans la voiture à la station de lavage, toi et moi sous la douche, toi et moi dans un confessionnal. Mais tout est flou, je ne suis même pas sûre que ce soit nous. Je coupe court à la projection. Oui, je sais. La tendresse, la complicité, l'humour. Pour les autres, peut-être. Moi, j'ai envie de jouir, de sentir un sexe bien dur me pénétrer, de sentir une langue entre mes cuisses. Qui oserait, aujourd'hui, s'aventurer entre mes cuisses? Même moi, je n'y mets plus les doigts. J'ai froid. Qu'est-ce qu'il fait? L'eau est froide, tout est froid. Je tremble. Aimanté comme un liseré gris et légèrement mousseux, la crasse adhère à l'émail de la baignoire. Avec le savon et tout le reste, comme mes lèvres, l'eau est devenue bleue. Maintenant, elle dissimule pour partie mon corps. Des poils flottent à la surface. Dans mon dos, la porte s'ouvre. Le mouvement provoque un courant d'air. André, mon amour, réchauffe-moi. Alors, elle est toujours vivante? Elle aurait dû appuyer sur la sonnette. Un peu plus, elle faisait trompette toute la nuit. C'est qui va encore nous attraper un rhume?
Avec moi.
C'est drôle. Quand il joue,
il est comme toi. Impatient. Il a du cœur. Il aime la vie. Et la mort ne lui fait pas peur. Alors pars. Surtout ne te retourne pas. Oh, pars.
Mais qu'est-ce que t'as?
Vite.
Je vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles.
Une noisette pour un gland. Au tout début, il fixait le plafond. Ce n'était pas une question d'ennui, juste l'habitude de regarder ailleurs pour ressentir plus intensément, mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Il n'a simplement pas envie de voir ce qu'il voit. Il finit pourtant par baisser les yeux et regarder la femme. Ce n'est pas par curiosité. Il veut simplement voir comment elle procède pour pouvoir intervenir en cas de besoin. Quelques secondes plus tôt, comme à chaque fois ou presque, elle a plongé la main dans le tiroir de sa table de chevet pour saisir un tube. Comme à chaque fois, elle a pris la peine de lui préciser qu'il ne devait pas s'inquiéter. « C'est plus confortable pour toi et moi. C'est une sorte de deux en un. Elle est charmante avec ses précautions oratoires. Elle m'a regardé en souriant, aucun reflet de moquerie dans ses yeux. Il y a bien sûr déjà pensé. Pourtant, sans savoir pour quelle raison, jusque-là, il ne s'était pas senti concerné. La première fois, il fut surtout surpris, tellement surpris qu'il ne chercha même pas d'excuses ni ne souhaita être rassuré. Il ne devait pas avoir envie, c'était tout. Il avait pourtant remarqué que la longueur de ce que l'on nomme les préliminaires n'était pas sans influence sur sa disponibilité. Il n'avait pas insisté et était parti, non sans laisser quelques billets sur l'oreiller. Seul, depuis quelques années, il a rapidement renoncé à se lancer dans une relation suivie. Rien que d'y penser, cette perspective le fatigue. Il a pris l'habitude de chercher sur Internet des rencontres tarifées ou non. À part ça, il entretient des relations avec d'anciennes collègues qui sont devenues des amies. Il déjeune régulièrement avec elles et se sépare après le café. Il apprécie les amitiés féminines qui n'engagent à rien si ce n'est à les prolonger. En cette fin d'après-midi, il doit se rendre à l'évidence. Cette fois-ci, il est également à deux doigts de partir. Il veut éviter l'acharnement qui en soi est déjà une humiliation. Bien sûr, elle a l'habitude. Elle en a certainement vu d'autres, mais quand même. Il s'éternise. On ne l'a pas vu passer. On a l'illusion de le prendre. On croit l'avoir. Le temps. Les effets du temps. Au saut du lit, expression qui jour après jour s'éloigne de la réalité, quand je me regarde dans la glace, cette glace qui ne m'épargne rien, vierge de toute dissimulation, avant la douche qui adoucit quelque peu, qui lisse la réalité, je vois les effets du temps. Quand j'ai pris le temps de me regarder avec attention, il était déjà trop tard. Le mal était fait, irréversible. Sur mon visage, plus profonde que mes pensées, les rides. On pouvait croire que chaque jour creuse un peu plus, chaque sillon d'où émergent des poils blancs qui, jour après jour, déciment leurs collègues noirs. Ah, les poils! Toujours plus nombreux, toujours plus invasifs. Je n'ose pas toujours regarder le reste avec ces protubérances graisseuses, ma peau, qui ici et là semble irrésistiblement attiré vers le sol, et l'ensemble dont je constate le tassement un peu plus prononcé chaque matin. Je prends garde de ne jamais me regarder de profil. Par inadvertance, je vois parfois mes fesses. Je n'ai même plus envie de les toucher. Il y a longtemps, si longtemps, j'y prenais plaisir. Je les savonnais sous la douche, je caressais leur galbe. Certains jours, il m'arrivait même de m'exciter tout seul. Aujourd'hui, elles ressemblent à deux mottes de beurre restées trop longtemps au soleil. Lâchement, il m'arrive de me désolidariser de mon corps. Je suis capable de le renier trois fois de suite. Non, il n'a rien de sacré, il ressemble de plus en plus à une relique. Quand je sors, je l'abandonne bien sur le canapé. Sortir seul sans lui dans les soirées, les dîners, faire comme si je ne le connaissais pas, ou à défaut, préciser que c'est un corps d'emprunt, que le mien est en train de prendre une douche à la salle de sport où il se rend quatre fois par semaine. Oui, je sais, avec l'âge, il est normal d'avoir un corps qui se ramollit, mais le mien n'est pas ramolli, il est flasque. J'y fais attention, alors qu'il est trop tard. J'ai fouillé dans toutes les boîtes de photos pour me persuader qu'il n'a pas toujours été comme ça. J'ai trouvé des photos de lui en maillot de bain ou torse nu. J'ai pu ainsi constater qu'il fut un temps où mon corps était ferme et se tenait droit. Pourtant, j'ai beau creuser, je ne me souviens pas d'avoir été admiratif ou heureux d'en posséder un comme ça. Je parie même que je ne le regardais même pas, inconscient que j'étais, inconscient du temps qui allait passer. Mais une fois que je suis habillé avec des vêtements suffisamment larges pour dissimuler l'irréparable, je me sens mieux, même si mon visage laisse deviner qu'au-dessous, ce n'est guère reluisant. Le délabrement de l'extérieur est un moindre mal. L'attaque du temps a également lieu en profondeur, à l'abri des regards, mais est moins redoutable. On devrait pourtant s'y attendre. Le phénomène ressemble un peu à celui qui conduit à la création, à l'irruption d'un volcan. On sait que c'est dans les profondeurs que cela se passe, que se préparent les bouleversements. On a beau savoir, mais l'on trouve que c'est sournois. Les essoufflements, les endormissements, les douleurs diverses et variées qui surgissent sans cause, la mémoire qui s'effiloche, les membres qui peinent à remplir leur office. Allongé de tout son long sur le lit, il voit son corps de haut en bas. Cette vision le laisse tout chose. Ce n'est pas tout à fait une découverte. Pourtant, à chaque fois, c'est l'incrédulité. De deux doigts, elle presse le tube. La crème se dépose sur le sommet de son index gauche. « Allez, une noisette pour un gland », lui lance-t-elle. Il lui sourit.
Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passer le violon. Quand tu étais dans la maison, il attend plus depuis tant de saisons. Le temps n'est plus au violon. Moi, dans la maison ville, dans ma chambre ville, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison ville, dans la chambre ville, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et j'entends le tonnerre, je n'attends personne. Moi de ce musicien, un soir d'adieu à la maison. Je me souviens, moi de ce musicien, et de l'adieu sur son violon. Et chaque année, lorsque l'année finit, j'entends le violon de septembre, et le passé comme une symphonie, fait son entrée dans cette chambre. Des gens dans le tonnoir, je n'attends personne. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces. Des gens dans le tonnoir, je n'attends personne.
Je vous la fais courte, une émission mensuelle de nouvelles.
Impression. Avant, je m'en souviens, tu me demandais souvent comment c'était avant. Et puis un jour, tu as fait partie de cet avant. Comme moi, tu l'avais vécu. Il ne te restait plus qu'à attendre tes enfants qui, à leur tour, te demanderaient c'était comment avant. Comme moi, tu ne sauras pas trop quoi leur répondre, ou tu n'oseras pas. Quand tu les trouveras trop insistants, tu iras chercher des photos dans une de ces boîtes où elles s'entassent bien à l'abri des regards. C'est ce que j'ai fait l'autre jour. Je ne me souvenais plus comment c'était avant. J'ai fait comme si. Moi aussi, je suis allée chercher des photos dans une de ces boîtes pour me rappeler le temps d'avant, toujours le temps où nous étions plus jeunes. Sur certaines, il n'y avait que lui. Sur d'autres, que moi. Sur quelques-unes, lui et moi. J'éprouve toujours des difficultés à croire ce que je vois. Comment avons-nous fait pour paraître si jeunes, si beaux, à croire que ce n'est pas nous? Qu'avons-nous fait de tout ce temps? N'avons-nous, comme lui, fait que passer? Je ne sais pas pourquoi je me suis mise à trier. D'un côté, les noirs et blancs, de l'autre, les couleurs. Les plus anciennes sont carrées, avec les bords crénelés à liseré blanc. Quand j'étais petite, il était formellement interdit de mettre ses doigts sur une photo. Nous n'étions pas autorisés à laisser des traces. Un temps, j'ai projeté d'écrire un livre de souvenirs qui se serait appelé « Les doigts sales ». Je me demande qui fut le premier à instaurer, à imposer cette règle. Quelle légitimité avait-il? Car je ne doute pas que ce fût un homme. Demandez-vous qui prenait les photos? Pourquoi d'autres ont-ils repris à leur compte cette intangible règle? Pourtant, nos empreintes ne sont-elles pas uniques? Et puis, comme l'obligation faite aux femmes de porter le deuil, sans que je sache pourquoi, cette injonction a disparu. Toutes ces années où l'idée de transgression ne nous effleura même pas l'esprit. Et un jour, nous eûmes le droit de mettre les doigts. Que voyais-je sur ces photos? Des gens que je ne connaissais pas. Certainement d'autres qui avaient été effacés de ma mémoire. Les photos nous font mourir plusieurs fois. Nous mourons à chaque fois que quelqu'un ne nous reconnaît plus. Les visages, les corps sont là, mais ne signifient plus rien. La mort de ceux que nous avons connus entame notre vie. Louis et moi n'apparaissons que très tardivement sur les noirs et blancs. Nous avons souvent le regard grave. Nous semblons souvent ailleurs ou surpris. J'ai presque l'impression de regarder des étrangers. Nous sommes ensemble quand apparaissent les couleurs. Au début, on les croirait extraites d'un film de Cécile B. 2000. C'est du clinquant, de la photo bling-bling. Tout le monde semble être tombé dans un bain de carotène. Toutes ces années où nous nous gavions de couleurs, d'horizons saturés. Comme un bébé, les premiers temps, la couleur bavait. Nous pataugions dedans comme des enfants riant en se roulant dans la boue. Nous primions sur tout le reste. Chacun de nous était un premier plan. Pour ce qui était de l'environnement, il pouvait rester dans le flou. À cette époque, nous gardions les négatifs. Rouleaux raides, à l'abri de petites boîtes rondes. Ils restaient là dans l'ombre. Pourquoi les conservions-nous? Je n'ai pas le souvenir d'être jamais retourné chez le photographe pour refaire des photos. Et puis est venu le temps de la maîtrise chromatique. Pour en faire une vie d'instant, je regroupe les photos où se trouve Louis. Dans ma main, comme un jeu de cartes, je lis le passé. Je les jette en l'air, elles retombent éparpillées. Des parcelles de Louis. Sans bruit, je pourrais les faire disparaître, les oublier, les enterrer. Je me mets au défi de les déchirer. Elles deviennent les reliques d'un culte. Louis n'était ni un saint, même si je le trouvais canon, ni un dieu. Alors me demandait-il. Je lui disais oui. Chaque matin, nous aimions jouer au provisoire, au sans lendemain. J'aimais Louis. Ma vie n'était rien d'autre. Je n'ai pas eu le temps de lui dire non.
En ce joli mois de septembre, les nouvelles que vous avez eu le plaisir d'écouter ont été lues respectivement par Maria Vitali, Frédéric Vitali et Pierre Chedeville. Habillage sonore, Jean Clarksville. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, bonne nouvelle, bonne nouvelle.